passer jusqu'à 13h15 avec vous, François Claus. Bonjour François.
Bonjour Carole, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Europe Midi. Ils sont 60 artistes, écrivains, sportifs de Cantona à Akhenaton, de Annie Ernaux à Patrick Bruel. Ils signent ce matin dans le journal Libération un appel pour défendre Théo et dénoncer les violences policières. Si on se tait, c'est toute notre société qui se salit, écrivent-ils. Retour dans le journal, bien sûr, sur cette soirée magique au Parc des Princes. La victoire 4-0 du Paris Saint-Germain face à Barcelone, peut-être l'une des plus belles pages d'histoire de l'histoire du foot français. Contesté par des députés pro-sarkozystes, François Fillon invite Nicolas Sarkozy à déjeuner ce midi. Nous y serons tout à l'heure avec Maxime Lambrec. Après la campagne démocrate aux États-Unis, après les inquiétudes d'Emmanuel Macron, l'Élysée prend très au sérieux le risque d'une cyberattaque en France et annonce de prochaines mesures. Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure à 13h05. Oui, le droit à l'oubli est enfin sanctuarisé. Deux décrets parus au journal officiel hier devraient garantir aux malades guéris d'avoir les mêmes droits que les autres. Nous serons en direct avec celle qui obtient enfin gain de cause après 3 ans de combat, Céline Lisraou. Et comme tous les mercredis, une page cinéma, des petits mouchoirs à rock'n'roll, des trentenaires au quadra, le couple Canet-Cotillard, de nouveau à l'affiche. Mais tout de suite, la météo du jour. Christine Peña, il y a comme un air de printemps dans l'air.
Exactement, un air, une couleur, une sensation en tout cas printanière avec du soleil et de la douceur. Reste le sud, alors le Languedoc-Roussillon pour être précise, avec encore cette couche nuageuse et de moins en moins de pluie, de moins en moins de vent également. La douceur, elle est partout. Là où elle est le plus marquée, c'est vraiment dans le sud-ouest, entre Bordeaux et Biarritz. Il y a 8 degrés de plus par rapport au normal de saison. On atteint les 19 degrés, presque les 20 degrés, en ce joli mois de février quand même.
Merci Christine Peña, non pas avril, février. Météo complète, juste avant 13h.
Europe Midi, François Claus.
Ce fut un moment de grâce, l'une de ces soirées inoubliables qu'on racontera à nos enfants encore dans 20 ans, l'incroyable exploit du Paris Saint-Germain hier en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Quand un attelage improbable de jeunes gamins de tout juste 20 ans, Kimpembe, Rabiot, issu du centre de formation et de stars comme Di Maria, que l'on croyait à jamais enseveli sous des millions d'euros de transferts, terrasse en une soirée le modèle du football en Europe, la légende, la montagne Barcelone. Bonjour Nabil Djellit.
J'allais vous dire bonsoir parce que je suis resté en fait, je suis pas redescendu. Donc bonjour François, bonjour à tous.
Nabil Djellit de France Football. L'équipe, notre confrère Vincent Duluc écrit ce matin que c'est l'une des plus belles soirées européennes de l'histoire du foot français. C'est votre sentiment ?
Totalement. Vous avez bien résumé les choses en parlant de montagne. Comme Hannibal, le Paris Saint-Germain a marché sur les Pyrénées et a battu certainement hier et avec la manière pour le grand public peut-être la meilleure équipe des 10 dernières années concrètement avec sur le terrain les 3 meilleurs attaquants du monde et 5 ballons d'or sur la table avec Lionel Messi. Ça situe, j'ai pas envie de dire exploit parce qu'il y a quand même de l'autre côté des grands joueurs. Vous avez cité cet attelage entre ces jeunes pousses et c'est aussi ces stars que sont Di Maria ou Cavani. Ils ont pour moi c'est une très grosse performance. J'ai pas envie d'utiliser le mot exploit parce qu'à un moment il faut aussi sortir un peu du complexe qu'on a nous les Français de penser toujours qu'on est dans l'exploit. Non. Hier, la meilleure équipe, c'était le PSG.
Alors, on va voir avec vous, Nabil Djellit, évidemment, les implications, les conséquences que cela peut avoir. Mais d'abord, on va revivre cette soirée inoubliable avec vous, Julien Froment, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez au Parc des Princes pour Europe 1 hier soir. Un Parc des Princes qui était totalement incandescent.
Ouais, effectivement, et l'étincelle est d'abord partie de la tribune Auteuil et des Ultras. Soyez comme des guerriers, vos soldats sont derrière vous. Le ton est donné, le parc a retrouvé son ambiance des grands soirs. Communion totale entre supporters et joueurs sur le terrain. C'est un feu d'artifice, un chef-d'œuvre collectif. Les stars ont répondu présent. Vous l'avez dit, Di Maria flirtant avec le sublime. Les jeunes formés au club ont été étincelants. Kimpembe, pour sa première en Ligue des Champions, a éteint lui seul Suarez et Messi. Le défenseur parisien Marquinhos résume parfaitement cette folle soirée.
C'est pas tous les jours que tu arrives à gagner le Barça 4-0 comme ça, avec beaucoup de plaisir qu'on a pris ce soir. Il n'y a rien à dire. Tout le monde a été avec le même état d'esprit. Tout le monde avait le cœur sur la pointe des chaussures. Et voilà, il y en a fait, je crois, qu'un des matchs plus importants de notre équipe ici à Paris.
La conséquence de ce résultat historique, Paris a 100% de chances de se qualifier pour les quarts de finale. Le défenseur Thomas Meunier voit même plus loin.
Disons qu'on s'affiche en tant que sérieux prétendant au titre de vainqueur de la Champions League.
Alors attention, il y a encore le match retour le 8 mars prochain, mais ne boudons pas notre plaisir. Ce résultat est un séisme à l'échelle du football européen et qui peut nous réserver encore d'autres répliques.
Alors Julien Froment du service des sports d'Europe 1, il y a quand même Nabil Djellit, un terme en Espagne, on appelle ça la remontada, ouais. Que les Espagnols, ça va être une équipe de Barcelone évidemment très revanchard, mais enfin, on peut imaginer, si Paris marque un but, il faudrait qu'ils en marquent 6. Pour se qualifier, hein. Faut donner quand même cette donnée-là. Paris est qualifié là aujourd'hui.
Non, faut l'incertitude du football. Et hier,
personne n'aurait dit Paris gagne 4-0. Oui.
4-0. Et en plus, en fait, hier le plus surprenant finalement, c'est pas tellement que le FC Barcelone soit friable défensivement, c'est que les trois devant passent à côté. Est-ce qu'ils passeront une deuxième fois à côté sur les grandes largeurs? J'en doute. Il va y avoir une réaction d'orgueil. Ça fait partie de la mentalité catalane. La clé du match, François, c'est les 20 premières minutes. Si, lors des 20 premières minutes, au retour au New Camp, le Paris Saint-Germain ne prend pas l'eau ou ne prend pas un ou deux buts qui peuvent galvaniser le FC Barcelone, je ne vois pas comment le FC Barcelone peut se qualifier.
Alors, c'est un peu, cette soirée, la revanche d'un homme qui a été très critiqué jusque-là, qui n'avait pas réussi à imposer sa griffe sur l'équipe et qui, le temps d'une soirée, eh bien, nous a présenté ce qu'il savait et peut-être voulait faire à Paris. Je parle de l'entraîneur basque, Unai Emery.
Vous avez parlé de remontada. En France, il faudrait créer le terme de réhabilitada. Il a été... Pour le coup, il a réussi. Alors, vous avez raison, parce que de toute façon, le changement provoque toujours des remous. Il est arrivé avec sa méthode, il est arrivé avec sa philosophie de jeu et il est arrivé aussi avec sa communication. Et peut-être qu'il nous a bousculé, nous, dans nos codes. En tout cas, ce qui est clair, c'est que du côté du Paris Saint-Germain, on n'a pas réussi à attirer Neymar, Cristiano Ronaldo ou Messi, mais on a peut-être trouvé une équipe et une philosophie de jeu bien claire, une identité. On aime bien ce terme dans le football. On l'a vu hier, l'identité de jeu du Paris Saint-Germain. C'est une équipe qui presse très haut, qui se projette rapidement. Avant, vous aviez Zlatan Ibrahimovic qui était là un peu, Zlatan et les autres. Hier, on peut pas dire que c'était Di Maria ou les autres, ou Cavani ou les autres. Hier, on a vu un vrai collectif, mais un collectif à haute intensité.
À très haut niveau et qui a permis aux stars Di Maria et Draxler, sur lesquels on s'interrogeait, de s'exprimer. Alors évidemment, en Catalogne, à l'heure où nous parlons, c'est un peu la chute d'une icône, ce Barça qui nous a, d'ailleurs il faut le dire, tant régalé, nous, tous les amateurs de foot. Henri Laguerry, on imagine que c'est une ambiance gueule de bois du côté de Barcelone.
Ah oui, effectivement, assommé, abasourdi, les supporters vivent cette défaite comme une humiliation. Et d'ailleurs, dans les cafés ce matin, on n'avait pas vraiment envie d'en parler. On ne s'est pas rué dans les kiosques à journaux. Une partie de la presse est d'ailleurs dans le déni. Ce n'est pas le Barça, tente de se persuader à la une le journal Sport. Carlota, abonnée au Camp Nou, n'a pas non plus reconnu son équipe.
On est tous, et moi aussi, un peu déprimés, mais c'est vrai que ça a été horrible. On pensait que c'était fait, que ce serait facile. Et c'est vrai que j'ai même pas pu finir les matchs. J'ai arrêté la télévision parce que j'en pouvais plus.
Voilà, il y a un mot qui résume bien la situation. Et figurez-vous qu'il s'écrit de la même manière en français, en espagnol et en catalan. Désastre, c'est le titre choisi à la une de Mundo Deportivo. C'est le premier mot qui vient à l'esprit d'Oriol pour qualifier la prestation de son club.
C'est un vrai désastre parce que chez le Barça, on accepte la défaite, tu peux perdre, mais jamais le supporter accepte que tu perds en jouant mal, en jouant de cette manière.
Alors bien sûr, il y a ce match retour, mais ici personne n'y croit, l'affaire est pliée. C'est plutôt l'avenir de Luis Enrique qui intéresse désormais les fidèles du Barça. Après une telle déroute, pas certain que l'entraîneur espagnol conserve son poste.
Merci Henri de Laguerry. Nabil Djellit, on a eu des doutes parfois sur les investissements qataris à Paris, sur la manière dont le président parlait de l'objectif Ligue des Champions. On peut dire que Paris a gagné bien plus qu'un match hier. Paris est entré mondialement, on peut dire, dans une autre dimension.
Oui, parce que en fait, nous, on a notre vision un peu européocentriste, mais quand vous voyagez un peu dans le monde, l'affiche la plus excitante pour tout le monde, c'est Barça contre Real. Donc tout le monde sur la planète football coche cette date. Et hier, en Mondovision, tout le monde a vu le Paris Saint-Germain battre le FC Barcelone. Donc en termes de bénéfices médiatique et en termes d'image, qui est visé en partie par les propriétaires qataris et le Qatar plus globalement, puisque c'est un club qui est au fond inféodé à l'État du Qatar. Hier, c'est double gain, quoi. Je veux dire, c'est la victoire concrète face au FC Barcelone, mais c'est également une résonance mondiale et une plus-value certaine pour le PSG et le Qatar.
Merci beaucoup Nabil Djellit de France Football.
Europe. Europe Midi.
Il est 12h42, la suite d'Europe Midi, François Claus avec un rendez-vous politique à ne pas manquer à l'heure du déjeuner.
Fillon, Sarko, un déjeuner des chefs pour une paix des braves, c'est le candidat des Républicains à la présidentielle, François Fillon, qui a lancé l'invitation hier à l'attention de l'ancien président de la République, son ancien supérieur, qui souhaitait, on s'en souvient, au soir de sa défaite, consacrer plus de temps à des passions privé, mais qui est bel et bien rattrapé aujourd'hui par cet incendie qu'un groupe d'une vingtaine de députés LR, plutôt proche de l'ancien président de la République, ont allumé et que le candidat, François Fillon, voudrait bien aujourd'hui circonscrire, Maxence Lambrecq.
Et oui, c'est l'objectif de ce tête-à-tête, convaincre Nicolas Sarkozy de faire taire ses troupes, de calmer les frondeurs, ces élus qui n'ont toujours pas digéré la défaite de leur champion et ont aujourd'hui le sentiment d'aller dans le mur. Nicolas Sarkozy semble prêt à jouer la carte de l'unité, même s'il est très agacé par cette affaire. Fillon nous a pris en otage, on est aujourd'hui contraint de le soutenir, lâche un de ses proches. Ce soutien ne sera sans doute pas gratuit. Nicolas va demander à Fillon d'intégrer davantage François Baroin dans sa campagne. Croit savoir un sarkoziste de la première heure. Et ça a tout l'air d'un beau cadeau d'une rampe de lancement pour le sénateur maire de Troyes, qui est d'ailleurs attendu ici cet après-midi. Dans quelques instants, la berline du candidat s'engouffrera sous ce porche de la rue de Miromesnil. Aucune photo de ce déjeuner n'est prévue. Nicolas Sarkozy ne veut pas s'afficher avec son ancien Premier ministre. Il reste dans l'ombre comme le mois dernier. Les deux hommes avaient déjeuné ensemble au même endroit. Et à l'époque déjà, François Fillon était venu chercher le soutien de son ancien rival. Une belle leçon d'humilité, conclut un ténor du parti.
Maxence Lambrecq, vous noterez aujourd'hui que le bus européen de la présidentielle est à Strasbourg, place de Breuil. Il est ouvert depuis 10h ce matin et jusqu'à 18h ce soir.
Il est 12h44, la suite du journal, François Claus.
Avec l'enquête sur l'attentat que s'apprêtait à commettre en France, ces trois suspects interpellés vendredi à Montpellier. Enquête qui se poursuit. Malik, 33 ans, Thomas, 20 ans, Sarah, 16 ans, ont donc été mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle et placés en détention hier soir. Et Pierre de Cossette, on commence à mieux mesurer finalement le rôle de chacun d'entre eux.
Oui, avec au centre du dossier ce jeune couple, lui, Thomas, originaire des Ardennes, garçon décrit comme perdu, converti et radicalisé, qui a pris la route du sud de la France il y a quelques mois. Et elle, Sarah, 16 ans, convertie elle aussi, rencontrée sur les réseaux sociaux. Lui devait mourir en martyr, elle partir en Syrie après leur mariage. Son avocat, Franck Berton, plaide l'innocence avec, dit-il, des larmes dans le bureau du juge d'instruction.
Je crois qu'elle s'est réveillée et qu'elle a été endormie pendant une période de 2 mois à 2 mois et demi. Mais ça va très vite, la vie d'une jeune fille peut basculer à force d'emprise et de contrainte. Elle s'est laissée emmener, voilà. Et elle a assisté en effet à la préparation d'un explosif. Bon, sa participation, elle se réduit à ça, et aussi à la consultation de sites par Internet et son allégeance qui lui a été rendue obligatoire parce que c'était la condition de son mariage tel qu'il le voulait. Si tu veux m'épouser, il faudra que tu fasses allégeance. Et elle a fait allégeance.
Alors il ne faut pas s'y tromper, du côté des enquêteurs, le portrait qu'on dresse de la jeune femme est bien plus noir. Le projet de mariage, c'est elle qui en aurait été à l'origine. Elle aurait ensuite rejoint la Syrie, auréolée de son statut de veuve, de martyr. Sa radicalisation est bien réelle. Il va y avoir un vrai travail éducatif, s'avance un connaisseur du dossier. Troisième mise en examen, un homme de 33 ans, présenté comme le tuteur, qui aurait pu les conseiller sur l'aspect spirituel, aurait fourni de l'aide pour un passeport, par exemple, rencontré lui aussi sur Internet. Il savait ce qui se tramait, ce projet d'attentat.
L'enquête de Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1, Sarah, on rappelle, 16 ans. Europe 1 en Syrie, notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini parcourt depuis maintenant plusieurs jours le pays, ravagé par près de 6 ans de guerre. Il a rencontré hier en Syrie des habitants exfiltrés de l'une des plus anciennes cités du monde, la magique, la merveilleuse Palmyre, qui est aujourd'hui aux mains, Jean-Sébastien, des combattants de Daesh.
Eh bien, cette deuxième occupation est vécue avec beaucoup d'abattement. Ils ont le sentiment que cette ville, plus symbolique que stratégique, passe au second plan des priorités. Mahmoud, un vieil homme, attend que Palmyre soit récupérée, quel qu'en soit le prix.
Le plus important pour moi, c'est le site antique de Palmyre. Cela vaut plus que ma propre vie, plus que celle de mes enfants. Nous avons vu Palmyre étant enfant, et on veut mourir là-bas. J'ai 62 ans et j'ai demandé qu'on me donne un fusil pour me battre avec les jeunes soldats, mais ils ont refusé de me le donner parce que je
suis blessé.
Tarek est le fils du directeur du site antique. Les islamistes ont tranché la tête de son papa et il n'attend qu'une chose, la libération de la ville pour achever son travail de deuil.
Je suis retourné là-bas une première fois pour retrouver le corps de mon père, mais j'ai dû interrompre mes recherches. On n'a pas osé avancer plus loin parce que Daesh était à moins de 5 km. Maintenant, je n'ai qu'un but, creuser et le retrouver. Le corps, on va le récupérer.
L'impatience est telle que beaucoup l'assurent, ils retourneront à Palmyre dès que Daesh aura reculé et pas seulement quand l'organisation terroriste aura disparu de la Syrie.
Jean-Sébastien Soldaini, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Syrie. En Grande-Bretagne, le gouvernement a confirmé hier quel serait le calendrier de la fameuse procédure de sortie de l'Europe, la procédure du Brexit, entre le 11 et le 31 mars prochain. Et ce n'est pas sans une certaine inquiétude que les entreprises dans cette très cosmopolite capitale londonienne vivent cette échéance. Reportage à Londres de la correspondante d'Europe 1, Anaïs Cordoba.
À la tête d'une start-up dans les nouvelles technologies à Londres, Jean-Michel Chalaillet a constaté depuis quelques temps une baisse des candidatures en provenance de l'Union européenne.
En effet, c'est un sujet d'inquiétude parce que nous, notre équipe, elle est composée à moitié d'Européens, donc de personnes qui viennent de l'Union européenne, qui vont venir ici pour un stage, qui vont venir ici pour une expérience à l'étranger et qui donc sont prêts à ne pas être payés beaucoup, juste de quoi vivre, pour faire un super boulot. Ça a été une des façons pour moi de développer un produit de qualité sans avoir à payer des fortunes, parce que les développeurs ici sont très très chers.
Moins de travailleurs européens. Un premier effet du Brexit qui inquiète les nombreuses start-up londoniennes, mais aussi les patrons de l'hôtellerie-restauration, comme Laurent Doré, qui n'emploie que des Européens dans sa boulangerie haut de gamme.
Ce serait vraiment un énorme inconvénient pour nous. Nous, on adorerait avoir des équipes anglaises, mais les Anglais ne veulent pas travailler en fait au niveau du service dans la restauration. Et même chose au niveau de la production, il y a très très peu d'Anglais en fait. Ce sont des métiers qui ne les attirent pas forcément.
Environ 2,3 millions d'Européens travaillent au Royaume-Uni. Depuis le Brexit, on estime qu'un quart d'entre eux envisagerait de quitter le pays.
Voilà le reportage signé Anaïs Cordoba, notre correspondante à Londres. Ambiance très tendue à Strasbourg autour du Parlement européen et dans l'enceinte du Parlement européen où les eurodéputés ont finalement adopté le texte validant l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Texte très très contesté, une ambiance très tendue. Ce texte va finir donc par s'appliquer dans les prochains jours. Je vous propose d'écouter l'une des voix pro-CETA au Parlement européen du groupe Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe, Cécile.
Le Canada, que je tiens à saluer, est un pays démocratique, doté de règles. C'est un de nos alliés et j'attire l'attention des Français. C'est aussi un pays qui est en partie francophone et envers lequel nous devons prouver une certaine solidarité. La France est un pays qui a de grandes difficultés en matière de commerce extérieur. Nous accusons un déficit de 48 milliards d'euros pour l'année 2016. Donc les débouchés avec un pays sûr, juridiquement proche de nous, sont toujours bons à prendre dans des conditions encadrées et nous comptons sur vous pour les faire respecter, Madame le Commissaire.
Alors cet accord devra être validé par les différents parlements. Il y a une manifestation en ce moment devant le Parlement de Strasbourg. Il y a eu un front très uni, très large, qui allait de l'extrême gauche au vert jusqu'à l'extrême droite de Marine Le Pen pour dénoncer cet accord et ce qu'il représente. Je vous propose d'écouter les arguments de la candidate du Front National aux élections françaises.
Le traité CETA a été soigneusement caché à tous les citoyens. L'agriculture, l'élevage, déjà laminés par tous les traités de libre-échange que vous avez déjà signés, continueront leur descente aux enfers. Nos éleveurs, mis en concurrence avec des éleveurs canadiens, 35% moins chers, risquent de fermer le rideau en masse. Je vous le demande solennellement. N'avez-vous pas honte de détruire ainsi ceux qui vous nourrissent ?
Voilà les arguments développés par Marine Le Pen à Strasbourg. Un reportage signé Charlotte Bechler. Nous allons marquer une courte pause, Carole, avant de revenir à l'actualité.
12h51, donc Europe Midi se poursuit dans une minute avec vous, François.
On parlera du droit à l'oubli.
Europe Midi.
Il est 12h53, à la suite d'Europe Midi, François Claus avec la question du droit à l'oubli.
Oui, deux décrets sont parus hier au journal officiel et ils réparent une très grande injustice. Bonjour, c'est Céline Lisraou. Vous êtes la directrice de Rose Association, qui regroupe d'anciens malades du cancer notamment. Et pour vous, c'est un peu l'aboutissement d'un combat de 3 ans, puisque vous avez été atteinte vous-même d'un cancer à l'âge de 37 ans. Vous avez été confrontée à ces difficultés lorsqu'on est guéri, que l'on veut revivre normalement. Combien de Français, Céline Lisraou, sont concernés par cette situation selon vous ?
Alors,
droit à l'oubli, c'est effectivement cette loi maintenant encadre les emprunts pour les assurances des emprunts pour les gens qui ont eu un cancer. Donc il y a un certain nombre de malades de cancer en France. Actuellement, on les compte environ sur 3 millions de personnes, donc 3 millions de personnes qui ont emprunté ou sont susceptibles d'emprunter dans les années à venir.
Et donc le plus difficile, j'imagine, ça a été de faire comprendre finalement aux gens qu'il y a des maladies qui sont réellement rémissibles.
Oui, voilà, parce que la grande victoire de notre association, Rose Association, vous savez, on est toute petite association, mais on est très très active, on est une association d'anciennes malades de cancer et de malades de cancer, et finalement, il a fallu convaincre les pouvoirs publics, les assureurs et l'ensemble de la population française que finalement, aujourd'hui, le cancer est une maladie dont on meurt de moins en moins et dont aujourd'hui, la nouveauté, c'est qu'on peut en guérir. Dans la mesure où ce n'est plus une maladie qui est uniquement une maladie chronique, on doit pouvoir remettre à un moment les pendules à zéro et s'affranchir de cette double peine, de cette espèce de casier judiciaire qui jusqu'ici nous suivait jusqu'à la fin de nos jours.
Alors, ce qu'il faut également, au-delà des décrets qui sont une forme d'injonction, c'est que les banques, les assurances jouent le jeu désormais, j'imagine.
Elles vont jouer le jeu puisque évidemment il y a déjà une loi et dans cette loi évidemment elle est encadrée par l'autorité du contrôle prudentiel de la Banque de France, c'est-à-dire c'est le gendarme du secteur bancaire. Et puis par ailleurs les assureurs eux aussi ont depuis longtemps réfléchi à ces problématiques d'assurabilité des malades de cancer et il y a une convention qui s'appelle une convention AERAS qui a une vingtaine d'années bientôt maintenant, qui est une convention où finalement autour de la table les assureurs, les pouvoirs publics et les associations se mettent autour de la table et discuter pour savoir dans quelle mesure on pouvait donner aux anciens malades de cancer, mais pas que de cancer aussi, aux gens qui ont, aux malades de diabète, aux gens qui ont HIV, la possibilité d'emprunter dans des conditions décentes. Et dans le cadre de cette convention AERAS, alors évidemment la loi pour nous c'est très symbolique, c'est une grande victoire, c'est une victoire pragmatique, parce que ça veut dire que les gens qui sont malades, ça va changer la vie de milliers de gens, mais c'est aussi une victoire philosophique, ça veut dire qu'aujourd'hui, la société se met au niveau de la médecine et brise le tabou du cancer. En revanche, il y a encore des malades de cancer qui sont malades pendant des années et certains même qui ne guériront pas. Donc cette convention elle est là aussi pour proposer des solutions aux malades de cancer qui ne guériront pas ou qui ont des cancers beaucoup plus chroniques. Et cette convention AERAS, elle, chaque année, elle met à jour une liste où cancer par cancer, on sait à partir de quel moment les malades ne pourront ne plus payer de surprime.
Et qui permettront enfin, évidemment, d'aller au-delà de cette injustice qui perdurait. Merci beaucoup à vous. Vous, Céline Lisraouz, d'avoir été en ligne en direct dans Europe Midi. La suite du journal avec un mercredi de cinéma parmi les sorties. Aujourd'hui, le retour d'une réalisatrice très attachante, Sandrine Wessé. Certains s'en souviennent peut-être, ça s'appelait « Y aura-t-il de la neige à Noël ?». C'est un film qui date d'il y a 10 ans déjà. Eh bien, elle revient sur les écrans avec un film qui s'appelle « L'histoire d'une mère ». Plus grand public, évidemment, le rock'n'roll de Guillaume Canet. Après les trentenaires dans les petits mouchoirs, Guillaume Canet s'interroge sur les quadras dans la société en dirigeant une nouvelle fois sa compagne, Marion Cotillard, laquelle était l'invitée de Bruno Crass et de Mathieu Charrier sur Europe 1. L'émission Un dimanche au cinéma à 13h, c'était dimanche dernier, elle racontait un petit peu la genèse de ce film.
On était dans le domaine de la farce parce que après cette rencontre, effectivement, avec cette journaliste, elle lui a juste dit qu'effectivement il avait une image aujourd'hui qui était plus du tout glam parce qu'il avait une femme, un gosse et des chevaux. Et Guillaume, ça l'a fait vraiment marrer parce que c'est pas quelqu'un qui a un problème avec le fait de vieillir ni avec son image en général. Et il s'est dit que ça ferait un bon début de film. C'est la troisième fois que je suis dirigée par lui et je pense que je partage ça avec toute femme ou tout homme qui vit avec quelqu'un en mode de création. C'est
compliqué, disons, des fois.
C'est compliqué,
parfois.
Voilà. Et en même temps, nécessaire à donner naissance à un film, à un livre, à n'importe quoi de créatif.
Voilà Marion Cotillard qui répondait aux questions de Bruno Crass et de Mathieu Charrier dans Un dimanche de cinéma rock'n'roll sort sur les écrans aujourd'hui.
Tous les jours, de 13h15 à 14h, c'est On de la raconte. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'une affaire qui remonte à la fin du 19e siècle, Christophe.
En 1881, à Noède, dans les Pyrénées catalanes, le curé du village, l'abbé Oriol, tombe amoureux de l'institutrice. Et il empoisonne deux paroissiennes pour s'enfuir et filer le parfait amour.
Une affaire à découvrir tout à l'heure de 13h15 à 14h dans On de la Traconte sur Europe 1.
Mais d'abord, la météo du jour.
La météo avec Rénoval, le réseau national de véranda et abris de piscine.
Alors, on l'a vu, on le disait tout à l'heure, Christine Peña, il y a un air de printemps dans l'air, là, très clairement, là. Question, est-ce que ça va être le cas demain encore?
Alors, demain, oui et non, on va dire, c'est vraiment pas une réponse. En fait, oui, parce que la douceur persiste, mais non parce que les nuages, eh bien, seront plus nombreux. Au nord de la Loire, le matin, le ciel sera bien chargé. L'après-midi, des trouées, quand même, seront nombreuses. On note une zone légèrement pluvieuse entre le bassin parisien et les Ardennes. L'après-midi, elle se décale, elle se déplace en direction de l'est. On la retrouvera de la Bourgogne à la Lorraine. L'Alsace. À l'arrière, les éclaircies reviennent plus timidement quand même sur la région parisienne. Et pour la moitié sud du pays, eh bien, des brouillards seront présents en plaine du sud-ouest le matin. Donc l'après-midi, le ciel va rester un peu voilé dans le sud-ouest, mais lumineux avec une belle sensation puisque la chaleur sera toujours d'actualité. Puis en Languedoc-Roussillon, toujours des nuages. La pluie devient anecdotique quand même demain, ainsi que le vent. Et puis l'après-midi, les éclaircies sont quand même de plus en plus belles, même sur le Languedoc-Roussillon. Voilà. Très beau temps sur toute la chaîne des Alpes. On salue nos amis skieurs, restez prudents. Les températures, 11 à Lille pour demain prévu, 12 l'après-midi à Nancy, à Belfort, 13 à Paris, à Strasbourg, à Clermont-Ferrand, 15 à Nice, jusqu'à 16 à Toulouse et 18, toujours le meilleur pour le sud-ouest dans les Landes.
Merci Christine Peña, vous revenez quand vous voulez avec toutes ces bonnes nouvelles.
Vous écoutez Europe 1, il est 13h. L'essentiel de l'actualité de ce mercredi, c'est avec vous François Claus.
Comment ne pas revenir sur cette soirée magique hier soir au Parc des Princes, un moment inoubliable, cette victoire du Paris Saint-Germain 4-0 sur Barcelone en huitième de finale aller de Ligue des Champions, l'un de ces matchs qui va marquer les mémoires, marquer l'histoire du foot français. C'était le sentiment de tous les supporters hier au Parc des Princes, c'est le sentiment de tous les commentateurs aujourd'hui en France et c'est le sentiment aussi des grands anciens du Paris Saint-Germain. Et je vous propose d'écouter par exemple ce que disait il y a quelques minutes le milieu de terrain Vincent Guérin, qui a joué au PSG entre 92 et 98 et qui habite d'ailleurs à côté du parc. Voilà un peu son sentiment après cette soirée qu'on n'oubliera pas. Il répond à Simon Rubin.
Je pense que c'est une soirée historique qui fera partie des grandes pages de l'histoire du club. Un match exceptionnel, un score exceptionnel contre une équipe exceptionnelle. Donc beaucoup d'ingrédients et puis un scénario assez incroyable dont on n'attendait pas justement le récit entre guillemets. Et tout le monde a été stupéfait de à la fois de l'ampleur du résultat, de la manière et puis de la qualité du contenu. Je pense que c'est surtout ça qui a été intéressant. La jeunesse qui était au pouvoir et qui a pris le match à bras-le-corps et a donné en tout cas plein d'envie, plein d'espoir à cette formation parisienne. Un match qui a marqué les esprits déjà, de tous ceux qui ont regardé le match, qui étaient au match. Pour les jeunes pousses, effectivement, c'est un match qui sera fédérateur, qui va être fédérateur pour demain, pour après-demain, pour le futur, ça c'est une évidence. C'est magnifique, c'est magique.
Et qui permet au Paris Saint-Germain d'entrer dans une nouvelle dimension. Alors, il y a un match retour quand même le 8 mars, n'oublions pas, mais les statistiques sont là. Aucune équipe dans l'histoire des Coupes d'Europe qui a été battue 4-0 à l'aller ne se qualifie, même si dans aucune équipe on pourrait ne pas mettre Barcelone, qui est une équipe pas tout à fait comme les autres. Mais Paris Saint-Germain a réalisé hier un très grand coup. Vincent Guérin répondait à Simon Rubin. L'actualité, c'est aussi cette mobilisation à Lyon avec une manifestation qui doit débuter en ce moment même autour du grand hôpital Édouard Herriot de Lyon. L'objectif, eh bien, c'est d'attirer l'attention sur une situation très préoccupante, celle des personnels dans de nombreux hôpitaux français, avec Caroline Philippe, des conditions de travail qui se dégradent.
Et la Fédération hospitalière de France parle même d'une situation de burn-out d'un hôpital à bout de souffle. Après Paris fin janvier et Marseille la semaine dernière, c'est aujourd'hui à Lyon que les soignants manifestent. Shaïba Janssen est infirmière, déléguée du syndicat Sud Santé. Au micro de Jean-Luc Boujon, elle dénonce le manque d'effectifs.
On ne peut plus continuer comme ça. On prend l'exemple des services de réanimation sur l'hôpital Édouard Herriot. Normalement, c'est une infirmière pour 4 patients et une aide-soignante pour 5 patients. Ces effectifs-là ne sont pas respectés. Ça veut dire une grosse charge de travail, beaucoup de stress pour le personnel parce que c'est des unités de pointe avec énormément de soins. Et on s'est confronté à un grand silence de la direction où la seule réponse était contrainte budgétaire, donc on ne peut rien faire.
Et c'est comme ça partout, à Dreux, dans l'Eure-et-Loire. 11 des 15 urgentistes ont posé leur démission. Au CHU de Nantes, les réunions de crise se multiplient. À Guéret, dans la Creuse, 4000 passages de plus en 4 ans pour un personnel constant. Une situation intenable. En cause, les 3 milliards d'économies demandées depuis 2015 et jusqu'en fin d'année. Résultat, les syndicats comptabilisent 22 000 suppressions de postes. Et pour l'heure, le plan de prévention des risques psychosociaux, annoncé par la ministre Marisol Touraine il y a 2 mois, est loin de satisfaire les syndicats.
Merci Caroline Philippe. La réalité de la consommation énergétique en France. Combien avons-nous consommé de nucléaire? Combien de renouvelables? C'est l'heure du bilan du côté des responsables de RTE qui gèrent le transport de l'électricité en France. Et même si la consommation a été, Carole Ferry, stable en 2016, on n'a jamais été autant obligé de s'adapter au jour le jour quasiment.
Oui, et en cause les nombreux réacteurs nucléaires qui ont été arrêtés en 2016 pour des contrôles de sûreté notamment. Résultat, l'année a été marquée par une baisse de 8% de l'électricité d'origine nucléaire qu'il a fallu compenser grâce notamment aux énergies renouvelables. Elles ont couvert 20% de la consommation avec un record de production d'énergie solaire, 11% de plus qu'en 2015. Ça, c'est grâce aux mois de juillet et d'août qui ont été très ensoleillés. Hausse également de l'hydraulique, 8% de plus parce qu'il a énormément plu au printemps dernier. L'éolien, en revanche, a manqué de vent pour battre des records. Mais ces énergies renouvelables ont donc été indispensables à l'équilibre du réseau, même si elles sont encore loin de devancer le nucléaire, selon le président de RTE, François Brotte.
En fait, le renouvelable est en train de prendre le relais de la fermeture d'un certain nombre de centrales fuel. Donc on est là plutôt dans une mesure d'équilibre entre ce qui est très carboné et ce qui ne l'est plus du tout, sans forcément que ça prenne le relais de la totalité. Encore, il y a encore du chemin avant que le renouvelable remplace absolument toutes les autres énergies de production électrique.
Alors il a fallu également acheter beaucoup plus d'électricité que d'habitude à nos voisins européens pour compenser ce manque de nucléaire. En décembre dernier par exemple, pour la première fois depuis 2012, nous avons acheté plus que nous n'avons vendu d'électricité.
Merci Carole Ferry, ce sera évidemment un des grands thèmes de la campagne à 67 jours aujourd'hui du deuxième tour. Du premier tour, pardon.
Europe Midi.
Il est 13h06 sur Europe 1. Place au débat d'Europe Midi avec vos invités François et avec toutes vos réactions et vos questions sur Twitter avec le hashtag E1Midi et via le standard d'Europe 1, le 39-21, 50 centimes la minute.
Et avec un thème qui est directement dans l'actualité puisqu'il a fait l'objet d'une communication du président de la République au Conseil des ministres il y a quelques minutes seulement. Et il s'agit du thème de la cybersécurité, la présidence qui annonce de nouvelles mesures en France, les attaques russes aux États-Unis contre l'appareil démocrate en pleine campagne sont aujourd'hui avérés. L'équipe de campagne d'Emmanuel Macron a porté des accusations ces dernières heures, parlant de tentatives de piratage et d'ingérence. Alors, quelle est la réalité de cette menace? À quoi jouent les Russes? Nous allons tenter en quelques minutes de répondre à ces questions. Et je suis heureux d'accueillir dans ce studio Nicolas Arpagian. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en cybersécurité, auteur notamment du livre publié aux éditions PUF, La cybersécurité. Puis avec nous en ligne, Jean-Sylvestre Montgrenier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur, vous, à l'Institut français de géopolitique, l'Université de Paris 8. Vous êtes membre également de l'Institut Thomas More et co-auteur de Géopolitique de la Russie au PUF également en 2016. Alors, première question, Nicolas Arpagian. L'Élysée se saisit là du dossier. Ce n'est donc plus du fantasme. Nous sommes aujourd'hui très fragiles en France face à ces tentatives d'attaque.
Alors, certainement, il faut falloir distinguer déjà les équipes des candidats qui sont des structures éphémères dotées de moyens limités et qui ont vocation à réunir des personnels et des personnes disparates, c'est-à-dire des militants, des soutiens ponctuels, des quelque chose qui a une durée de vie très courte, donc qui effectivement n'a pas forcément investi dans la sécurité des communications et surtout des gens qui sont...
Et qui pourtant ont un rôle extrêmement important et extrêmement stratégique.
Exactement, parce qu'on est en train... Exactement, surtout des militants, des gens qui sont des idées qui circulent, mais simplement cette organisation est très précaire. Pourquoi ? Parce que dans quelques semaines, elle aura vocation à se dissoudre et à être remplacée par effectivement la réalité politique. Donc la problématique, c'est qu'on est là également dans des attaques qui peuvent concerner également l'information, c'est-à-dire la réputation, le crédit que l'on peut faire à des candidats avec des informations.
Quand vous voulez dire la réputation, vous voulez dire qu'on utilise leur site pour distiller de fausses informations, pour les décrédibiliser ?
Alors en fait, vous avez bien justement désigné les deux deux aspects de la cybersécurité. D'une part, on rentre dans le système de l'administration, de l'entité que l'on souhaite pirater, de manière à capter des informations. Dans le cas du Parti démocrate, c'était des emails internes qui montraient des priorités, qui montraient des rivalités stratégiques. Et on rend public cette information de manière à polluer le débat. La deuxième chose, c'est la diffusion de fausses nouvelles, qui est également une inquiétude qui a été pointée, notamment dans le cadre de l'équipe de En Marche, l'équipe de Monsieur Macron. Pourquoi ?
Et
parce
on l'a
que...
vu qu'a été quelque chose de très important dans la campagne américaine, ces fameux faits.
Effectivement, on va voir que des informations qui sont effectivement calomnieuses concernant des candidats, alors on l'a vu aux États-Unis concernant Hillary Clinton et le fait que des soutiens auraient participé à des activités pédophiles, qui évidemment viennent gravement polluer le débat. Ce qui est certain, c'est que ça vient justement faire en sorte que la campagne porte sur tout, sauf sur réellement les programmes de manière concrète, et on voit que c'est un climat délétère qui s'instaure et qui effectivement favorise plutôt les extrêmes et en tout cas ne crée pas un caractère paisible.
Et détourne le combat démocratique de son essence elle-même. Alors on pointe du doigt évidemment, en tout cas c'est pas tant du côté des États-Unis et il y a de forts soupçons du côté de la France. Les États-Unis, la Russie pardon, j'ai envie de dire, à quoi jouent donc les Russes, Jean-Sylvestre Mongrenier ?
Russe, pour être plus précis, du côté du Kremlin de Vladimir Poutine, on est dans l'esprit et en acte en situation de guerre froide. Hein. On hésite à utiliser cette expression du côté français, européen, occidental, mais ça fait longtemps que du côté russe, il y a le sentiment finalement que la guerre froide au sens historique du terme n'a pas été définitivement jouée, ne s'est pas achevée avec la chute du mur de Berlin et qu'il y avait une revanche à prendre. Hein. Donc il y a un grand projet politique du côté russe qui, à mon sens, a été sous-estimé. On a voulu voir en Poutine un autocrate avant tout soucieux de conserver le pouvoir à des fins personnelles et puis qui jouait d'une rhétorique musclée pour manipuler l'opinion intérieure. Mais à mon sens, il y a véritablement un projet politique d'abord de reconstitution d'un bloc de puissance à l'intérieur de l'espace autrefois soviétique, ce qu'on pourrait appeler une URSS New Look. Et puis, depuis quelques années, il y a même l'idée selon laquelle finalement l'Europe entière pourrait passer sous domination russe. C'est-à-dire que du côté russe, eh bien, on part de l'idée que les États-Unis inéluctablement vont se désengager de l'Europe, que l'OTAN va se désagréger, et puis qu'à partir de ce moment-là, l'Union européenne également se désagrégera. Ça sera le chacun pour soi, une sorte de chicken run. Et donc là, la Russie pourra jouer pleinement de sa masse critique pour jouer les uns contre les autres. Et donc des opérations de ce type qui finalement rappellent la propagande, la guerre psychologique, la désinformation d'autrefois, mais démultipliée par la technologie, ça vise notamment à écarter des candidats qui sont jugés non favorables, voire hostiles au projet russe. Et puis
à favoriser ceux qui pourraient être très utiles, pourraient être très utiles demain. Et on voit très bien que ces attaques sont pour le moment ciblées. Alors est-ce qu'on a aujourd'hui, nous, nos démocraties, des parades, j'imagine qu'elles sont là, on nous présente souvent un des pays les plus performants, Nicolas Arpagian.
Il va falloir distinguer les parades techniques des parades, j'allais dire, intellectuelles. Intellectuelles, c'est
et
important,
politique.
Pourquoi ? Politique, pourquoi ? Parce que ça veut dire aussi que ce débat informationnel va contribuer à animer les discussions et faire en sorte qu'on ait un esprit critique sur les informations qui circulent. Ça va obliger à beaucoup d'exigences presque morales en se disant, mais lorsque l'on nous rend public une information, quel est son contexte ?
Et au passage à nous médias qui les relayons.
Exactement. Et donc ça peut certainement également valoriser votre métier de journaliste, c'est-à-dire de professionnel de l'information. C'est-à-dire faire en sorte de analyser plus que jamais l'information disponible, qui l'émet, dans quel agenda et avec quelle finalité. Et ça c'est important parce que pourquoi en clair c'est l'éducation du public qui est à la fois auditeur, téléspectateur, internaute et électeur qui va pouvoir ainsi être de plus en plus mature face à cette information de manière à ce que ne pas être l'objet de campagnes de désinformation, c'est plutôt positif parce qu'on va vers une prise de conscience et une responsabilisation des opinions publiques. Ça, c'est très souhaitable. La deuxième chose...
L'aspect technique, c'est de faire en sorte... On a les moyens de les repérer et de les contrer.
En fait, l'idée, c'est... Alors, ça suppose qu'on ait investi dans des outils de surveillance périmétrique. En clair, je vérifie l'intégrité de mes systèmes de communication et l'intégrité en utilisant justement des outils protégés. Simplement, ça suppose propose de prendre des, de respecter un certain nombre de protocoles, notamment concernant des équipements informatiques. C'est pas la solution la plus simple toujours, mais en tout cas, avoir une discipline, une hygiène informatique, c'est indispensable.
Oui, on a vu donc que l'Élysée ce matin annonçait de nouvelles mesures à venir. On va voir lesquelles. Et puis il y a également Jean-Sylvestre Mongrenier, une réponse là plus, j'imagine, diplomatique face à la Russie qui pour le moment renvoie des communiqués un peu dédaigneux. Non, c'est pas nous, on y est pour rien.
Sur un plan diplomatique et militaire, il y a déjà une réponse qui est en train de se déployer. C'est-à-dire qu'en 2008, nous étions encore dans le déni. Lorsque la Russie attaquait la Géorgie, il y a eu une tentative de reset en 2009. Aujourd'hui, avec l'Ukraine, on a quand même pris la mesure de ce projet géopolitique. La preuve en est que, malgré toutes les différences qui peuvent exister entre les gouvernements européens et occidentaux, il y a eu un accord sur les sanctions qu'il fallait prendre à l'égard de la Russie, sanctions internationales sur un plan diplomatique, économique. Alors il y a quelques voix discordantes, mais quand on regarde les arguments des voix discordantes en Europe, généralement c'est plutôt une logique de chacun pour soi, de stricts intérêts économiques. On ne peut pas dire que ça soit un désaccord de fond sur le diagnostic de la politique russe. Alors par ailleurs, il y a également...
Même si ce lobbying et ce hacking se fait beaucoup de Bruxelles d'ailleurs, aussi, au cœur de l'Europe.
Oui, bien sûr, oui.
Où se trouve le site Sputnik, notamment, qui diffuse pas mal d'informations contestables en ce moment.
Oui, qui est un organisme d'État. On a également Russia Today. Donc, il y a tout un ensemble d'instruments dont s'est dotée la Russie, qui vise à mener ce qu'on appelle là-bas une guerre de l'information, donc, pour qui cible notamment toutes les franges des abusés des démocraties occidentales. Et donc, c'est-à-dire que du côté russe, on est conscient que le grand projet dont je vous parlais tout à l'heure ne peut pas aller sans une convergence entre...
Ils essayent de s'inscrire dans ces fragilités qu'on note en ce moment, que ce soit d'ailleurs dans des pays comme la Pologne, au front pas très loin des frontières de la Russie, ou dans nos vieilles démocraties elles-mêmes fragilisées. On aurait aimé avoir beaucoup plus de temps avec vous, mais on y reviendra dans les prochaines semaines puisqu'il y aura de nouvelles mesures. Merci beaucoup à vous, Nicolas Arpagian. Je rappelle que vous êtes auteur de la cybersécurité au PUF. Et merci beaucoup à vous qui étiez en ligne avec nous, Jean-Sylvestre Mongrenier, pour la géopolitique de la Russie au PUF également, publié en 2016.
Et merci beaucoup François. Europe Midi revient demain avec François Claus pour une nouvelle édition à 12h30.